Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Mikhail Gorbatchev livre son ultime témoignage sur la période historique qu'il a marquée d'une empreinte inoubliable.
Oui, et il en profite pour donner sa propre analyse de celle que nous vivons. Son ouvrage, Le futur du monde global, est présenté en effet comme son testament. Âgé aujourd'hui de 88 ans, le dernier secrétaire général du Parti communiste du RSS n'a pas pardonné à Boris Yeltsin d'avoir dissous l'Union soviétique et proclamé l'indépendance de la Russie. Il estime que c'est le putsch des conservateurs du parti en août 1991 qui l'a empêché, lui, Mikhail Gorbatchev, de parvenir à l'accord politique qu'il était en train de négocier avec les responsables des autres républiques soviétiques. En tant que président, dit-il, je me suis battu jusqu'au bout pour l'unité du pays, l'URSS, je l'ai fait, je le tiens à le souligner, par des moyens politiques. Eh bien, c'est passé un peu vite tout de même sur le déploiement de troupes soviétiques en Lituanie à la veille du référendum sur l'indépendance du pays, voté, rappelons-le, à 90% en 1991. Mais c'est vrai, l'histoire saura gré à Gorbatchev d'avoir permis au peuple qui voulait depuis longtemps secouer le joug du communisme d'avoir accédé pacifiquement à la démocratie dont il rêvait. Mais présenter la fin de la guerre froide, ainsi qu'il le fait, comme le fruit d'une série de négociations entre lui-même et Reagan, et décréter qu'il n'y eut ni vainqueur ni vaincu, eh ben c'est une curieuse lecture de l'histoire. Après tout, ce ne sont pas les Allemands de l'Ouest qui se sont soulevés contre leur régime et ont exigé leur rattachement à l'Allemagne de l'Est, mais le contraire. Aujourd'hui, Gorbi se définit comme social-démocrate, mais il soutient Poutine, dont l'idéal de révolution conservatrice ne correspond guère à cet idéal. Le président de la Fédération de Russie a hérité en 99, écrit-il, d'un chaos dont Yeltsin portait l'entière responsabilité, et il crédite Poutine d'avoir rétabli l'autorité de l'État sur l'immense Russie. Il le félicite d'avoir rendu sa puissance et son influence internationale à son pays. Gorbatchev déplore l'extension de l'OTAN et même de l'Union européenne, trop rapide, juge-t-il, aux anciennes démocraties populaires. Et il approuve ce qui s'est passé en Russie depuis l'an 2000, de l'invasion de la Tchétchénie à l'annexion de la Crimée ukrainienne. Il ne semble pas remarquer non plus les ingérences russes par conflits gelés en Géorgie ou en Moldavie. D'une même plume, il se prononce pour la non-ingérence dans les affaires intérieures, le droit des peuples à l'autodétermination, et il accuse l'Union européenne d'avoir accepté de négocier avec l'Ukraine sans inviter la Russie. Décidément, on ne se débarrasse pas si aisément de la doctrine brejnevienne de la souveraineté limitée des satellites.
Alors Brice, là où Gorbatchev se montre le plus convaincant, c'est lorsqu'il déplore la nouvelle course aux armements.
En effet, il n'est pas le seul à s'inquiéter du retrait des Russes et des Américains du traité sur les armes nucléaires de portée intermédiaire, le traité INF, qu'il avait lui-même signé avec Ronald Reagan en 1987 afin de mettre fin au dangereux face-à-face en Europe des SS-20 d'un côté, des Pershing 2 et des cruise missiles de l'autre. Dans un récent article, Sigmar Gabriel, l'ancien ministre SPD des Affaires étrangères allemand, explique cette renonciation. Je le cite. « Si les États-Unis et la Russie veulent se libérer de toute limitation sur les armements nucléaires, ce n'est pas pour s'affronter mutuellement, mais parce qu'ils considèrent à présent la Chine comme leur véritable adversaire nucléaire. Or, cette dernière, il faut le savoir, n'a signé aucun traité de limitation des armements stratégiques. » Mais beaucoup d'experts s'inquiètent de l'actuelle relance évidente de la course aux armements nucléaires. Ainsi, Bennett Ramberg, un analyste américain au département d'État, estime peu probable que les États-Unis maintiennent leur adhésion au traité New Start, qui arrivait à échéance en 2021 et qui limitait à 3000, ce qui est déjà pas mal, le nombre d'armes dites stratégiques que les USA et la Russie s'autorisent à braquer l'un vers l'autre. Gorbatchev accuse franchement, lui, les États-Unis de vouloir abaisser le seuil à partir duquel ils pourraient éventuellement employer ce type d'armes. Ramberg, lui, écrit que les Russes ont déjà déployé un arsenal de missiles de portée intermédiaire visant les seules capitales européennes. Il y a bel et bien une nouvelle course aux armes nucléaires dans le monde et un risque de prolifération, notamment au Moyen-Orient, si jamais l'Iran finissait par sauter le pas. Pour Ramberg, la cause en est double. D'une part, les anciennes alliances militaires par lesquelles l'un des super grands s'engageait à défendre ses alliés ne sont plus crédibles. L'insécurité pousse à s'armer. De l'autre, il n'est plus envisageable d'aller détruire les installations nucléaires qui vous inquiètent, comme par exemple Israël l'a fait autrefois en Irak et en Syrie. Donald Trump, par exemple, semble avoir ainsi renoncé à frapper les installations iraniennes. Trop risqué. Renforcer son propre arsenal serait alors une troisième solution destinée à garantir sa supériorité et donc à tenir la dragée haute aux challengers éventuels, type Corée du Nord. Et c'est ce que font les Américains et les Russes.
Merci beaucoup Brice Couturier pour cette chronique qu'on peut retrouver sur le site de France Culture.